Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1108 en ce samedi 29 mai 2021, voilà. Et on démarre, une fois n'est pas coutume, avec le générique Sweet Home Chicago par les Blues Brothers. Voilà ce 1108e Sweet Home Chicago avec deux invités, l'un en première heure, l'autre en deuxième heure. On commencera tout à l'heure par Bernard Selam du groupe AWEC qui nous présentera le nouvel album du groupe qui s'appelle tout simplement AWEC. On va passer une bonne partie de cette première heure avec Bernard Selam. Et puis je vous rappelle, comme à quasiment chaque interview, que vous pouvez intervenir également pour poser vos propres questions sur le Facebook Sweet Home Chicago. Donc c'est possible depuis ce matin, il y a déjà eu 2-3 petites interventions et vous pouvez continuer là pendant le quart d'heure qui vient, Facebook Sweet Home Chicago, pour poser toutes vos questions à Bernard Selam du groupe AWEC. En deuxième heure, je recevrai Marc Mitou, qui a très bien connu Rab McCulloch. Rab McCulloch qui nous a quittés, vous le savez, il y a une semaine de cela. Rab qui avait laissé de bons souvenirs dans la région, notamment par rapport au festival du Bougie Blues Festival. C'était il y a une petite quinzaine d'années. Et puis, qui avait également, avec Marc Mitou justement, produit, je pense que c'est le tout dernier album de Rab McCulloch. C'était un live à Paris. Grâce également à la complicité d'un certain Jean-Pierre. On aura donc Marc Mitou qui nous parlera de Rab McCulloch. Et puis il y aura également un petit hommage à James Harman. Décidément, cette semaine a été bien compliquée pour les amateurs de blues. James Harman qui lui aussi nous a quittés alors qu'il allait avoir ses 75 ans. On poursuivra avec quelques nouveautés Frenchie, The Gamblers, The Crossroad Guys, on reviendra sur l'album des Steelers. Et pour compléter cette émission, la vieillerie de la semaine avec Seal Johnson, on sera en 1975. Et la rubrique 50 Years After, les albums sortis en 1971 avec The Doors, le LA Woman. Voilà, vous savez tout presque sur ce 1108e Sweet Home Chicago sur le 666. On est ensemble jusqu'à 15h. Voici Muddy Gurdy, disque du mois. MJ's Boogie, l'album Homecoming. MG's Boogie, le blues de Muddy Gurdy. Muddy Gurdy avec l'album Homecoming, disque du mois pour Sweet Home Chicago, en ce mois de mai 2021. Merci encore à Tia et toute sa bande pour l'envoi et la diffusion possible de cet album. Et puis si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez vous le faire offrir ou vous l'offrir tout simplement. Homecoming de Muddy Gurdy, on y reviendra au cours de cette émission par deux fois. On poursuit avec deux nouveautés avant d'attaquer dans le vif du sujet avec notre premier invité Bernard Selam pour Awek. On va réécouter, je crois que c'est la deuxième diffusion, cet album qui s'appelle Tinfoil Hat, qui peut se traduire par chapeau de papier aluminium. Monsieur Popachubi, complètement déjanté sur ce disque fait à la maison et produit ici par Dixie Frog, comme tous les derniers albums de Popachubi. Voici, chérie, mets ton masque, s'il te plaît. Put on your mask. Popachubi. Baby, put on your mask. Oh, baby, put on your mask. Don't make me have to ask. Just go and put on your mask. It's not a difficult task, so go and put on your mask. Now baby, take off your clothes, 'cause you know your papa knows that you are not one of those. So baby, take off your clothes, don't make me have to ask for you to put on your mask. If you put on your mask, it's gonna be alright. I'm gonna love you all night. Baby, put on your mask. So baby, put on your mask. Don't make me have to ask. Don't wanna stay that ass. It's not a difficult task. Honey, put on your mask. Now baby, let's go home, 'cause that's where it's going on. We can party in the ball, girl, and watch the birds at dawn. I know I won't have to ask for you to put on your mask. Salut à tous, si vous venez d'arriver, c'est Sweet Home Chicago numéro 1108 avec ce deuxième titre déjà, Popachubi, Baby Put On Your Mask sur l'album Tinfoil Hat chez Dixie Frog Records. Je ne sais pas si, comme Sean Pittman, Popachubi est prêt un jour à reprendre ou à prendre tout simplement la guitare acoustique. En tout cas, c'est la démarche qu'a faite Monsieur Sean Pittman au cours de ce confinement qu'on a connu tous en 2020, le premier, le plus dur. Et ça a donné naissance à un album qui s'appelle Stomping Solo. Monsieur Sean Pittman, qui lui à 46 ans, a cessé, on va dire provisoirement, de se produire en power trio électrique à la Stevie Ray Vaughan pour plutôt aller adapter le répertoire de J.B. Lenoir, de Mississippi John Hurt, de Buck Hawaii, de Lilson Jackson, Mans Lipscomb ou même carrément Lightning Hopkins. Et puis également à composer dans ce style-là. On va s'en rendre compte tout de suite avec un extrait, ce titre Lightning Stomp, emprunté au répertoire de Lightning Hopkins sur l'album Stomping Solo de Sean Pittman. We'll be right back. Voilà, petit instrumental extrait de l'album de Sean Pittman qui s'appelle Stomping Solo à la Lightning Hopkins, bien sûr. Voici un premier extrait de l'album de Awek qui s'appelle tout simplement Awek, qui sort ces jours-ci et on écoutera Bernard Sella nous en parler en direct. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur le Facebook Sweet Home Chicago si vous voulez en savoir davantage sur le groupe Awek. Voilà, pendant la demi-heure qui vient, trois titres et l'interview en direct avec Bernard Sella. Ça, c'est l'entame de l'album, ça s'appelle We're Gonna Make It Through, Awek.
I watch the news, I can't believe my eyes. It's getting hard to tell the truth from the lies. Danger is creeping here and there. But you and me, honey, we'll make it through.
Voilà, c'est ainsi que démarre l'album de Awek, We're Gonna Make It Through. Je suis au téléphone avec, si ça veut bien fonctionner, Bernard Selam. Bonjour Bernard.
Bonjour Marc.
Écoute, excuse-moi, je vais essayer d'arranger le son. Est-ce que ça va mieux comme ça pour tout le monde? On t'entend?
Moi ça va, bon, j'espère que les auditeurs m'entendent surtout.
Non, ils ont juste eu les oreilles vrillées par un gros Larsen, mais tout va bien. Bernard, très heureux de t'accueillir à nouveau dans l'émission. On compte pas le nombre d'interviews de Bernard Selam en tant que leader d'Awek. Bernard, première question, j'ai envie de te demander, ça y est, le premier concert, il arrive là, après des mois d'abstinence. C'est quoi tes sentiments aujourd'hui, Bernard?
Bah, j'ai un sentiment, je suis très très heureux, je suis très excité, en même temps il pleut pour l'instant. Et comme c'est en extérieur, donc j'ai des petites craintes. Ah. Mais bon, nous on sera protégés, et puis j'espère que ça va se dégager. Nous on joue à Toulouse, donc...
Toulouse, la ville blues, hein, comme disait Nougaro. Non,
mais... Oui, voilà. Mais pas uniquement. Bon, ouais, c'est aussi un peu la ville de la flotte, hein, ici. Il ne faut pas croire, il n'y a pas qu'en Normandie qu'il pleut.
Non, mais il ne pleut jamais en Normandie. Y a pas...
Ah oui, pardon, c'est vrai, je me suis trompé. Je confonds avec la Bretagne.
Exactement. Quand il fait mauvais en Normandie, c'est à cause des Bretons qui nous envoient leur crachin. Premier concert quand même prévu aujourd'hui. On espère, on croise les doigts bien sûr pour qu'il ait lieu. Ça fait plusieurs mois que vous n'êtes pas produit. Comment est-ce que vous avez vécu toute cette période-là, tous les quatre, le groupe Awek, Bernard?
Bah, disons que justement le CD dont on va parler nous a beaucoup aidé. Ouais. Parce que déjà, bon, bah, ça fait depuis le mois de mars 2020 qu'en fait on est quasiment tout le temps confiné. On a fait très peu de concerts. On jouait un petit peu en juillet, en septembre et en octobre, et puis c'est tout. Mais bon, la réalisation du disque, les répétitions, les séances de studio, le mixage et la promotion du disque nous a tenus en éveil, on va dire.
Oui, oui.
Et puis ça nous a motivés, quoi, pour montrer qu'on était toujours là, que Awek c'est une entité, que c'est pas une pandémie qui va nous mettre à genoux, enfin pas pour l'instant en tout cas.
Voilà, effectivement, on va parler de l'album longuement tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu, peut-être rapidement, hein, sur les 27 années d'existence du groupe, parce qu'Awek a été fondé en 1994, dont les 16 derniers en quartet, hein, l'évolution du son, l'expérience scénique au fil du temps, les enregistrements avec de nombreux invités prestigieux, et puis le livre aussi qui scellait les 20 ans du groupe en 2014. S'il fallait faire un bilan de tout ça, Bernard, aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de marquant à titre personnel?
Ce que je retiens surtout, c'est que en fait, il y a très peu de groupes dans le monde du blues déjà au départ, parce que c'est souvent des personnalités qui montent des équipes derrière, qui tiennent 1, 2, 3 ans. Nous, on est restés en tant que groupe, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé les membres non plus du groupe depuis le départ.
Mmh.
On a même grossi la formation, puisque donc il y a 16-17 ans, je ne sais plus. Donc Stéphane est rentré dans
le groupe. Il me semble que c'était en 2005 de mémoire.
Oui, 2005. Bon, après, c'est vrai qu'on avait déjà commencé un peu des concerts avec lui en 2004, mais officiellement, il était rentré en 2005. Donc moi, c'est surtout ça que je veux retenir, et puis que, voilà, c'est notre 12e album, d'arriver à faire 12 albums, toujours avec les mêmes membres, de faire évoluer le son, et puis d'être satisfait à chaque fois, et d'avoir quand même, depuis notre expérience américaine, on a quand même eu que des bons retours de nos disques, quoi.
Depuis vos expériences américaines, il y en a eu plusieurs, hein. On peut parler de la Californie, on peut parler du Texas. Awek, justement, bénéficie d'une excellente réputation de sérieux, en fait, de maîtrise technique, bien sûr, mais aussi de respect des codes du blues. J'ai envie de dire, tout comme d'autres formations qui sont nées avec vous dans les années 90. Alors, qu'est-ce qui vous démarque, vous, des groupes qui sont nés après? Tu parlais des groupes un peu éphémères. Qu'est-ce qui te fait penser que Awek se démarque des autres groupes?
Je critique surtout pas les autres groupes éphémères. Hein. C'est bien aussi de pouvoir naviguer. Et il y a des gens qui ont besoin de se nourrir avec d'autres expériences et qui sont très enrichissantes et puis qui me manquent, moi, des fois aussi, personnellement. Mais en même temps, bon, voilà, moi, j'ai fait un choix. On a fait un choix de construire les choses de façon assez laborieuse au départ, surtout. Et d'année en année, mais après, nous, on n'a pas, je vois pas tant de différence que ça avec, ouais, avec tous les collègues qu'on croise. On est content, on découvre. Je trouve que depuis quelques années, 4-5 ans, il y a toute une nouvelle scène dans le blues en France avec des gens plus jeunes que moi, bien sûr, qui sont très brillants et qui font des choses qui sont des fois un petit peu en dehors du blues que j'aime et que j'écoute, mais il n'empêche que c'est quand même de la super bonne musique. Mmh. Et qu'on entend quand même derrière les racines de Voilà, les notes bleues, on les entend, elles sont là, hein, il n'y a pas de doute. Hein.
Bien sûr, et justement, la question qui arrive juste derrière, c'est ça, c'est quels sont les groupes français dont tu aimes découvrir les nouveaux disques ou que tu apprécies d'aller voir en concert particulièrement?
Bah, il y a un groupe que j'aime beaucoup, même si c'est pas un groupe qui est fait uniquement avec des professionnels avec qui je collabore de temps en temps, c'est Elise and Sugar Sweet.
Voilà.
Qui est pas franchement un groupe de blues à 100%. Ils ont quand même un pied largement enfoncé dans la soul. Et je leur écris quelques chansons. Et puis, bon, c'est des copains. Et surtout, ils ont une nouvelle chanteuse qui est extraordinaire. Donc, bon, voilà, on est en train de préparer, j'espère, leur prochain disque. J'ai fait déjà 2 titres pour eux. Et puis, voilà, je collabore un petit peu avec eux. Mais après, il y a plein de gens superbes. Il y a les Cotton Bellies qui sont là depuis un moment, que j'aime beaucoup.
C'est vrai,
aussi.
C'est vrai.
Je parle des... Bon, mais c'est quand même des gens qui sont de la nouvelle génération par rapport à moi. Non, il y a plein de filles. Il y a Gaëlle Buswell, bien sûr, ouais. Que j'aime beaucoup, qui est un peu plus rock, c'est un peu notre Bonnie Raitt. C'est... Et puis Jessie Lee, et puis Little Mouse aussi, que j'aime beaucoup. Toutes ces filles, c'est bien, là. Il faut qu'il y ait une relève, parce que, voilà, c'est trop une musique de mec, hein. C'est une musique de macho.
Ouais, c'est
hein.
Clair. Pour compléter ta liste de filles, Bernard, moi, j'ajouterais Amandine Rose de Rosedale, et puis Nina Attal, qui est toujours là.
Mais bien sûr, voilà. Bien entendu. Mais il y en a d'autres, hein, ça, c'est
bien
ce qui
sûr.
Est bien. C'est ce qui me vient comme ça, bien entendu. Sans parler de Tia, moi, qui est ma petite chouchoute, on va dire, dans le lot de toutes ces filles. Mais bon, je pense qu'il faut arrêter de faire le distinguo entre les gars et les filles. C'est bon, ça y est, elles sont dedans, elles sont aussi créatives que les mecs, il n'y a pas de problème. C'est comme un peu la polémique entre le blues blanc, le blues noir. C'est fini, ça. Maintenant, pour moi, tout ça, c'est le passé, quoi.
Je te poserai pas la question Beatles, Rolling Stone, blues blanc, blues noir, blues en français, blues en anglais. Ça, c'est des questions qu'on posait autrefois. Et puis, tu as raison, ce sont des débats qui sont un petit peu dépassés. Je pense que, effectivement, le fait de ne plus parler de blues au féminin, tout particulièrement, comme encore, j'ai vu un magazine de guitare parler notamment de Gaël Buswell, de Laura Cox, etc., comme si c'était juste extraordinaire qu'une fille tienne une guitare. Non, faut arrêter ces trucs-là. On est bien d'accord. Et de toute façon, des artistes, féminine ou masculine, il y en a toujours eu dans le blues. Le tout premier blues qui a été enregistré, c'est une fille qui chantait.
Et bien sûr, c'était Mamma Smith.
Exactement, Mamma Smith, ouais, en 1920. Il y a 100
ouais.
ans, tu te rends compte? Ça fait plus de 100 ans maintenant qu'on a enregistré le premier album de blues. 101 ans après, c'est l'album de Awek, qui s'appelle tout simplement Awek. Justement, Bernard, première question par rapport à ça. Pourquoi pas avoir donné un titre d'album? C'est votre 12e disque?
Bon, on a cherché un petit moment et puis on s'est dit, bon, on a fait que des disques avec des invités et là, bon, bah, à cause du confinement au départ, et puis après, c'était un choix vraiment esthétique, on s'est dit, on enregistre que nous quatre. Parce qu'en fait, on a un son et puis même, on a des copains qui nous ont sonorisé, qui nous ont dit, mais les gars, c'est super quand vous avez des invités, mais votre vrai son, c'est quand vous êtes tous les quatre, quoi. Et donc, je pense qu'il est... C'était le moment de faire un disque où on montrait que, à quatre, ça fonctionnait aussi bien que quand on va en Californie avec Kid Andersen, Rusty Zinn, etc. On peut faire un bon disque quand même, sans les invités. Bon, c'est sûr que ça fait moins, c'est moins prestigieux, surtout à l'étranger. C'est moins vendeur aussi, parce que quand t'as, je sais pas, je dis n'importe quoi, Junior Watson sur ton disque ou Kim Wilson, bon, ben, ça marche un peu, ça va vendre un peu plus. Mais nous, bon, ça va, c'est notre 12e disque, je pense qu'on a fait un peu nos preuves, puis on voulait vraiment montrer que faire entendre notre vrai son à quatre.
Et puis en même temps, j'ai envie de dire, l'album, on va dire souvent, il se vend à l'issue des concerts. On espère tous qu'il y aura de plus en plus de concerts maintenant que tout semble reprendre un peu le cours des choses. Ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui ne connaissent pas le groupe, qui vont le découvrir à partir de ce 12e album et qui vont vous demander forcément si ce qu'on entend sur le disque correspond à ce qu'ils ont entendu en live. Et là, vous pourrez leur dire oui.
Bah oui, là, 100%, parce que c'est vrai que la plupart du temps, dans nos derniers albums, en tout cas, il y avait toujours du piano. Et là, il n'y a pas de piano du tout. Voilà. Ceci dit, il y a quand même 2 invités, mais qui sont beaucoup plus discrets. C'est pas des entre guillemets, des stars du blues américain qui sont venus nous...
C'est Fred Cruveller. Voilà. Fred Cruveller qui est de Toulouse également, qui fait de la guitare sur 2 titres.
Fred Cruvillier.
Cruvillier, pardon.
Ouais, ouais. et qui est un excellent bluesman et donc qui avait été sélectionné, qui était parti à Memphis, donc voilà, qui a un super trio que j'adore. Et puis c'est un copain, c'est vrai qu'on est voisins quasiment. Et puis un percussionniste, mais qui a rien à voir avec le monde du blues, qui joue sur un morceau aussi.
Pascal Rolando.
Voilà, Pascal Rolando, qui lui est plutôt dans le monde du jazz et des musiques, on va dire, les musiques du monde. Il joue avec Renaud Garcia Fons, avec des gens comme ça.
Mais pour les percussions, c'est parfait.
Serge Lopez. Ouais. Et pour les percussions, et Pascal, c'est pareil. Bon, c'est, il n'y a pas de frontières chez les musiciens. Bon, c'est un copain depuis longtemps. En plus, il habitait à 5 minutes du studio. Donc, ça s'est fait un peu au dernier moment. On s'est dit, bon, pour ce morceau-là, ce serait bien d'avoir de la percu, parce qu'on n'a jamais eu d'invité percussionniste. Donc, on a fait vraiment des choses assez nouvelles sur ce disque, c'est vrai.
Voilà, donc avec très peu d'invités, tu l'as dit, le ramasser sur le quartet de départ. Il est grand temps qu'on cite les autres musiciens. Toi, Bernard Sellam, bien sûr, guitare-chant. Stéphane Bertolino à l'harmonica. Joël Ferron à la basse. Olivier Trébel à la batterie. Voilà, ça, c'est le groupe historique, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous parler, Bernard, des conditions de l'enregistrement de ce nouvel album ?
Alors, on a enregistré dans un très bon studio, pas très loin de chez nous, hein. C'est dans le Tarn, mais c'est à la limite de la Haute-Garonne où on habite. Ça s'appelle le studio du Moulin, qui est un studio qui est assez connu pour les musiciens de jazz et pour les prises de son acoustiques. On était tous ensemble, on a tous joué tout ensemble, on n'a pas fait de re-re, il y a peut-être deux, trois voix qui ont été refaites, des petits bouts en tout cas, mais on a tous joué tous ensemble. Et puis des fois, j'ai fait une deuxième guitare, un slide, mais on a tous joué tous ensemble et on est resté ensemble, même si on était à pas loin de la maison, le soir on dormait là-bas, on se faisait à manger, on était en immersion, on était bien, on était heureux, on plaisantait, on faisait la fête.
Un enregistrement familial, amical et presque familial, non ?
Oui, oui, il y avait juste l'ingénieur du son et nous. Et puis on se, comme je te dis, voilà, on se faisait à manger. Il y avait une piscine, ça c'était cool. Au mois de juin, en tout cas, on pouvait se faire quelques ploufs parce qu'il faisait chaud. Puis après, on a fait une deuxième session
en décembre.
En décembre, voilà, parce qu'en fait, voilà, on s'est dit bon, il y a rien à faire, on n'a qu'à faire un disque. On n'était pas complètement prêt. Moi, j'avais déjà écrit quelques chansons. Et puis, il manquait quelques titres qu'on a travaillé après la première session. On y est retourné en décembre. Et là, c'était aussi bien, pareil. On a passé un très très bon moment. Et on a passé peu de temps en fait, parce que on était assez près, qu'on avait bien répété et on s'est bien régalé.
Et on a le résultat avec cet album qui contient pas moins de 15 titres. On va parler du contenu tout à l'heure, mais justement autour de ce disque, il y a effectivement le Covid, son cortège de frustration. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas de colère rentrée, il y a quand même juste l'expression d'un groupe qui est voué à l'incapacité de se produire en public. Ce disque-là, notamment par la pochette, le recto de la pochette, le montre tout à fait. Vous n'êtes pas dans la possibilité de vous exprimer. C'est presque comme si vous aviez des masques sur la pochette.
Oui, c'est un peu ça, puisqu'on ne voit que nos yeux. Si on est dans l'espèce de carreau, ça peut être. On peut penser à des barreaux aussi. On est un peu en prison. Et puis ouais, surtout, il y a les chansons. Il y a beaucoup de chansons qui parlent. Le morceau qu'on vient d'écouter là, qui s'appelle We Gonna Make It Through, ça veut dire on va s'en sortir. Et il parle clairement de la pandémie. Hein.
Alors, commencer par ce disque, le disque par ce morceau-là, c'était pas un hasard.
Bah pas du tout non. le texte c'est I watch the news, I can't believe my eyes. Mmh. Je regarde les nouvelles et j'en crois pas mes yeux. C'est difficile de cerner le vrai du faux. Ça continue comme ça, etc. Puis y a pas que ce titre là qui parle. Il y a un morceau qui s'appelle The Dream. Mmh. Où je fais un rêve et en fait je me réveille, c'est un mauvais rêve où je marche dans la rue et je suis contrôlé par un flic parce que j'ai pas de masque, etc. Je suis absolument pas anti-masque, loin de là. Et puis ça parle de la pandémie, et puis ça s'appelle Dream, et puis il y a le dernier morceau qui s'appelle I'm Staying Home, c'est-à-dire que je reste à la maison. Et je suis tellement bien à la maison en fait. Que je, à la fin, à force d'être à la maison, je j'arrive plus à sortir de la maison.
Bernard, on va écouter ce titre justement, The Dream. On va se retrouver juste après pour la deuxième et dernière partie de l'interview. On est en direct sur le 666. Merci de rester avec nous, Bernard.
Bien sûr,
à tout de suite.
Got a ticket from a cup.
Le groupe Awake dans l'album Awake avec Bernard Selam au téléphone en direct dans ce 1108e Sweet Home Chicago sur le 666. Bernard, très heureux de t'avoir à nouveau au bout du fil. Ça faisait un petit moment, mais je me souviens encore du passage quand même, je crois que c'était en 2019, de Awake au Subok.
Oui, je m'en souviens bien aussi. Bon,
je pense que c'est la dernière fois qu'on s'est croisé à ce moment-là. Voilà.
Je pense aussi. Très belle salle et j'espère qu'elle va rouvrir et que vous aurez plein de bons concerts.
Ah oui, bah alors franchement, c'est ce qu'il faut souhaiter à tous les gens qui font vivre la musique live, tu as raison. J'ai quelques questions personnelles, Bernard, avant de revenir sur cet album qu'on évoquait tout à l'heure et puis qu'on va continuer à décortiquer un petit peu. Des questions personnelles par rapport à ton chant et à ta guitare. Est-ce que tu travailles ton chant, Bernard ?
Je travaille mon chant en m'enregistrant à la maison, mais bon, je fais pas de, j'ai pas de technique particulière, voilà, parce que je suis un autodidacte. Et mais bon, je me suis beaucoup amélioré parce qu'au départ, j'étais pas chanteur vraiment. Mm-hmm. J'étais chanteur par nécessité. J'en avais marre des chanteurs capricieux, enfin de ceux qu'en tout cas j'avais croisés qui étaient un peu capricieux. Et puis donc je m'y suis mis et j'ai travaillé en m'enregistrant.
Ça, c'était au début de Awake, en fait. Hein.
C'est un peu avant Awake, en fait. J'étais dans un autre groupe, c'était un groupe un peu plus soul. Des années, on faisait un peu du rhythm and blues des années 60. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai commencé le chant, en fait.
Est-ce que tu as une guitare en main 365 jours par an ?
Oui, quasiment. On va dire ouais. 362. Peut-être 3 jours.
Voilà. Noël, jour de l'an et Pâques, c'est ça.
En gros, ouais, non, pas Pâques. Enfin, je joue quand même. Il fait beau, donc je me mets dehors sur la terrasse et je gratte. Non, je joue tous les jours. Je joue tous les jours, quitte même si je joue pas toujours bien. Mais je joue tous les jours sans forcément travailler. Bon, voilà, je travaille plus trop l'instrument, la technique, tout ça.
Ouais, ouais, ouais.
Bon, c'est bon.
Alors, une question pour les guitaristes, on va essayer peut-être de répondre brièvement, parce que tous les auditeurs de l'émission ne sont pas forcément des spécialistes, mais quand même, quel est ton matériel préféré, que ce soit guitare, ampli, effet ?
Alors, déjà, sur ce que tu as prononcé à la fin, effet, moi je joue pas avec des effets sur mon ampli.
Pas de pédale.
Non, enfin si, j'ai une pédale réverb, parce que j'ai un ampli sans réverb, alors je joue avec la réverb. Ou de temps en temps avec un écho et un trémolo. Donc en fait, ce qu'il y a sur les vieux amplis Fender, je suis très ampli Fender, j'en ai 5 à la maison.
Un Twin par exemple ?
Non, je joue pas avec les Twins. Pour moi, le Twin c'est trop agressif et puis ça crunch pas. Mm-hmm. Non, moi je joue sur une réplique d'un Bandmaster qui a été créé par un monsieur qui de Poitiers, je crois, ou de Limoges, ouais, qui s'appelle Mandley. Après, j'ai un Vibrolux et puis j'ai des petits amplis à la maison. Des petits amplis, des vieux amplis. J'ai un vieux Princeton de 64.
D'accord.
Un Silver. Bon, voilà, c'est
matériel vintage.
Très vintage, ouais. Ouais. Et j'ai une dizaine de guitares aussi. Mais je joue toujours les mêmes guitares sur scène. Hein. C'est un peu le lot de tous les collectionneurs, entre guillemets. Enfin, moi, je suis un petit collectionneur.
Ah bah déjà une bonne dizaine de guitares. Bernard, pendant qu'on cause, il y a des gens qui te posent des questions ou qui interviennent ou qui racontent des conneries sur Facebook. Comme
tous les jours. Y aller, hein. Moi, j'aime ça.
Il y a Ronan One Man Band, qui te demande et ça donne quoi quand il joue mal ? Parce que tu disais, je ne joue pas toujours bien.
Ah bah quand je joue mal, voilà, de toute façon en général j'essaie de jouer mal quand je suis tout seul. Hein. Non mais c'est disons que moi je prends du plaisir surtout à jouer, quoi. Mmh. C'est-à-dire que ça passe d'abord par ça. Et après, bon ben des fois c'est vrai qu'il y a des jours où ben c'est parce que j'ai pas trop envie de jouer, mais je me force un peu. Voilà. C'est là que je joue mal.
Je reviens à l'album. L'album s'appelle Ah ouais, qui sort en ce moment avec vous quatre. Tu l'as dit en photo, on voit uniquement vos yeux. Si on revient sur cette fois-ci le verso de la pochette, il y a une piste, une route jonchée de vos instruments façon pochette du Maguma des Pink Floyd. Pourquoi ce clin d'œil ?
Alors ça, c'est Olivier Trébel, donc qui est un grand fan de Pink Floyd, qui a eu cette idée-là. Et bon, moi j'aime bien. Bon, moi j'écoutais Pink Floyd quand j'avais 14-15 ans.
Ouais.
J'écoute plus, hein. Je te dis franchement, Pink Floyd aujourd'hui, j'ai plus du tout envie. Mais bon, par contre, c'est une référence pour Olivier et c'est aussi une référence pour moi parce que c'était un disque que j'ai beaucoup écouté de Pink Floyd. Et puis voilà, parce que aussi on est sur la route. On a déballé notre matériel. On a failli mettre un panneau à vendre.
Oui, bah par rapport à tout le matos qui pouvait plus servir à cause du Covid, j'imagine.
Voilà, c'était un peu ça. Et ça nous a permis. Et c'est, par contre, c'est, on a un petit peu le sens du détail dans Awake, c'est-à-dire que c'est uniquement du matériel à part. Bon, on a mis quelques enceintes de sono dont on s'est pas servi, mais tout le reste, tout ce qui est instruments et ampli, ce sont des instruments qu'on a utilisés au studio. Ce sont ceux-là. Et il en manque même deux ou trois. J'ai utilisé une ou deux autres guitares, je sais plus, qui sont pas sur cette pochette. Voilà, bon, c'est un petit clin d'œil à Pink Floyd aussi, parce qu'on est assez vintage.
Et puis, effectivement, avec une mise en scène très très soignée, j'imagine que la préparation de la photo a dû prendre un bon moment. Tous les instruments, ça va jusqu'aux baguettes qui sont posées très délicatement juste devant sur le fameux tapis. Enfin, moi, en tout cas, voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ils ont écouté Uma Guma, les gars, c'est pas possible.
Ah, oui. Tous, hein. Stéphane, c'est pas sa génération, c'est le plus jeune.
Oui.
Il est pas trop, mais nous,
Stéphane,
oui,
je crois qu'il est né l'année de Dark Side of the Moon, il me semble.
Ah, c'est possible, oui.
Ouais, 73, il me semble.
Ouais, c'est ça, ouais.
Si on revenait sur l'essentiel, c'est-à-dire le contenu de l'album, Bernard, il y a 15 titres, ça dure 66 minutes, c'est un format fleuve qui aurait peut-être, je sais pas, peut-être pu davantage être ramassé au vu des autres productions actuellement, hein, parallèlement à ça. Est-ce que, par exemple, raccourcir à 11 ou 12 titres, ça a été un débat au sein du groupe ou pas du tout?
Oui, on en a parlé, mais au moment où on a fait l'ordre des morceaux, en général, quand on faisait l'ordre des morceaux, les albums précédents, ça nous prenait 3-4 jours, on consultait des gens et tout. Là, on l'a fait en une heure. On l'a fait autour d'une table avec un verre de vin. C'était sur ma terrasse. Il faisait pas trop moche. Et puis, on s'est dit, bon, voilà, on va mettre celui-là en premier, celui-là en deuxième. Et puis après, naturellement, on s'est retrouvé avec tous les morceaux qu'on avait enregistrés.
Est-ce qu'il y avait d'autres titres qui ont été écartés?
Non. On a tout mis.
D'accord. Donc il n'y aura pas de bonus track dans 10 ans. Ça sera.
Non, on a voulu le faire. On a évoqué à un moment donné de faire 12 titres. Mais je sais pas, c'était de se dire, ah, on met que 12 titres, ou j'en sais rien, ou on sélectionne vraiment que les meilleurs. Mais pour nous, il y avait chaque morceau avait sa place. Et puis, c'est vrai qu'on a un répertoire qui est, même si c'est assez typé, toujours un peu dans le même, dans un blues assez classique, il y a quand même des choses différentes, quoi.
Oui, parce qu'on continue à entendre un petit peu l'influence de Jimmy Reed, le shuffle, il y a même du mambo, il y a en tout cas des traces sonores qui ont été laissées par les invités de vos albums précédents. Tout ça, c'est perceptible dans ce disque-là. Et pourtant, le son, c'est du Awake pur jus. À quoi est-ce que tu attribues, Bernard, le fait que le groupe sonne de façon si personnelle?
C'est les années, hein. T'as dit 27 ans, ça va faire 27 ans, là ça fait 26 ans, c'est vrai, ça va faire 27 ans au mois de septembre. Mm-hmm. C'est les années, c'est de se connaître, et puis d'évoluer ensemble. C'est-à-dire que quand Olivier achète une nouvelle batterie, il pense que ça va coller avec le son de la basse, de la guitare et de l'harmo. Moi c'est pareil, on a quand même beaucoup évolué ensemble. C'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire que quand on a fait évoluer notre matos, c'est que on allait tous dans la même direction. Ouais, il y a des gens qui nous ont beaucoup influencés aussi. Et là, bon, je ne peux. J'ai vu ta cette liste là de l'émission. Et bien sûr, il y a un hommage à James Harman dans ton émission. Et nous, on a été très influencés par James Harman.
Un petit mot pour James Harman, Bernard, justement, qui vient de nous quitter.
Franchement, nous, quand on fait des nouveaux morceaux, on fait souvent référence en faisant référence à nos contemporains, en tout cas. Je parle pas des anciens comme Olin Wolf, Muddy Waters, tout ça. Les trois grands qu'on cite souvent, des gens qui nous ont influencés de la scène actuelle américaine, c'est Kim Wilson, Sugar Ray Norcia et James Harman, et beaucoup de James Harman. Et même si la musique qu'on fait, c'est quand même pas du tout la sienne, enfin il y a quand même il y a quand même des morceaux qui sont un peu pompés sur ces titres. Et donc James Harman, oui, c'est quelqu'un de j'ai eu la chance de le rencontrer, il est même venu manger à la maison.
Oui, on a vu une photo il y a pas très longtemps avec ton épouse.
Ouais. Et donc on a échangé un peu, il a écouté Awake aussi et il avait l'air de bien apprécier ce qu'on faisait. Après bon, c'est vrai que James il a surtout joué en France avec quelques musiciens français qui sont des exceptionnels et des amis, Fabrice Besquat, Anthony Selmazac, etc. Et ils ont eu beaucoup de chance de travailler avec ce grand monsieur. Mais bon, on est très peiné. Pour moi, James Harman, c'est un peu le grand bluesman dans l'ombre. C'est-à-dire qui était qui était adulé et énormément aimé et apprécié par les musiciens.
À l'époque, il jouait avec Hollywood Fast, notamment.
Par exemple, mais même après. Hein,
après aussi.
Même l'époque avec Jeff Turnus, etc.
Kid Ramos.
Kid Ramos. Ça, c'était au même moment qu'Hollywood Fast. Mais bon, c'est surtout un musicien, deux musiciens, quoi. C'était le grand public de blues, ceux qui vont écouter Buddy Guy, etc., souvent, ils connaissent pas James Harman. Mm. Et je pense que là, bon, vu qu'avec sa disparition, il y a beaucoup de dommages qui ont été faits, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont le découvrir. Dommage un peu tard, mais au moins, ils le découvriront, ils verront que c'était... je pense un des plus grands bluesman de ces 20 ou 30 dernières années.
Merci pour ce mot à propos de James Harman. Bernard, je reviens. C'est juste le temps de deux questions rapides sur votre album. Ah ouais, il y a trois instrumentaux, hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Il y a Smoking Mambo, signé Stéphane Bertolino, avec beaucoup d'armo, évidemment. Il y a aussi Gumbo Blues et Beer O'Clock. Trois instrumentaux dans le même album. Pour quelle raison, Bernard?
Alors, Gumbo Blues, ce n'est pas un instrumental. En fait, c'est un morceau de Dave Bartholomew, donc, qui est un gars de New Orleans. Il y a deux instrumentaux, forcément.
Deux, pardon,
Stéphane,
Stéphane,
il fallait qu'il fasse je l'ai un peu poussé, je lui ai dit, il faut absolument que tu fasses un instrumental. Dans le disque précédent, il n'y avait pas écrit. Et il a fait un truc superbe et qui rend vraiment bien sur scène en plus. Et puis après, moi, j'ai fait Beer O'Clock.
Voilà,
qui est un morceau un peu swing, un petit peu fun, un petit clin d'œil, Beer O'Clock, parce que j'aime bien boire ma bière le soir, à l'heure de la bière.
Sur la fabrication de l'album, et notamment au niveau des paroles, quelle a été la part de ton épouse Diana Rowe dans l'élaboration de ce disque ?
Énorme. Diana, déjà, elle m'inspire, parce que, on parle beaucoup.
C'est d'abord ta muse, peut-être.
C'est ma muse, elle m'amuse, c'est un mauvais jeu de mots. Et puis surtout, elle a des expressions très 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 drôles, elle a beaucoup d'humour. Et donc, souvent, j'ai une idée, j'écris quelques trucs, elle me corrige, puis des fois, elle reprend tout à zéro. Et donc, en fait, il y a beaucoup de morceaux qui sont pas signés d'elle, mais qui sont d'elle.
Ah ouais, carrément.
Oui, bien sûr, parce que elle est déjà, elle est née aux États-Unis, américaine. Mmh. Et puis surtout, c'est une grande fan de blues, quoi. On en parlait l'autre jour, elle me disait elle a vu Muddy Waters dans un club, elle avait 16 ans, quoi. Elle a dû tricher pour rentrer parce qu'elle avait 16 ans. Donc dans le club, puis elle l'a vu en club. C'est nous, les grandes stars du blues, on les a vues en Europe dans des festivals.
Oui, et encore, moi je te dirais, ça fait longtemps que je assiste à des concerts de blues, mais j'ai jamais pu voir Muddy Waters. Je verrai là-haut, quoi.
Voilà, donc elle connaît bien le monde du blues, elle connaît bien les paroles de blues, forcément, elle les connaît presque mieux que moi. Ouais. On a notre connivence tous les deux, je dois dire que c'est même de plus en plus facile d'écrire des chansons avec elle et donc grâce à elle. Je la remercie.
Bel hommage également, ouais.
Elle m'entend pas, mais je la remercie quand même.
Ah, mais peut-être qu'elle écoutera la rediff, je ne sais pas.
Oui,
Bernard,
oui.
J'ai une question à propos de ça, écoute bien. Qu'est-ce que c'est que ce gong final à la fin de l'album, en morceau caché?
Bon, alors, je vais essayer de faire court.
Mmh.
En fait, dans Umaguma, sur la pochette de Umaguma, tu verras que sur le camion de Pink Floyd, il y a un gong.
Oui, exact.
Donc, la règle, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était qu'on mettait que des instruments qu'on avait utilisés dans le studio. Et comme il n'y avait pas de gong, on a rajouté ça à la
fin.
Parce qu'on voulait copier la pochette de... d'Umaguma, et donc il fallait qu'il y ait un sens, qu'il y ait un gong.
Eh oui, c'est la fin de l'illustration sonore du verso de la pochette, finalement.
Voilà, puis c'est le coup de gong, hein, cette fois-ci c'est fini, quoi, hein, je veux dire. Les gars, ils sont peut-être à bout de souffle, mais en tout cas, on arrête, maintenant vous passez à autre chose, écoutez donc un disque de James Harman.
Bon, écoute, moi ça me rassure, en même temps, t'as pas du tout pensé au Collaro Show, donc c'est parfait.
Ah oui, j'aurais pu, j'aimais bien.
Bernard, j'ai quelques questions un peu qui sortent de l'ordinaire, on va dire, contrairement aux autres. Tu as la possibilité ici de passer un message à chacun des autres membres du groupe. Tu peux soit les féliciter, les engueuler, leur envoyer un message d'amour à chacun. Et surtout, ils ne peuvent pas répondre pour le moment. Alors, qu'est-ce que tu leur dirais à Olivier Trébel, d'abord?
Olivier, je voudrais le remercier de bosser toujours comme un malade pour nous trouver des gigs, quoi. C'est un peu notre agent, Olivier, hein. Bon, même si moi aussi je trouve du travail, donc merci Olivier, tiens bien la route, c'est pas facile en ce moment, mais c'est cool, quoi.
Olivier Trébel, le batteur. Maintenant, Joël Ferron, le bassiste de AWEC.
Joël, je pourrait dire n'importe quoi, parce que Joël, c'est la stabilité, bon, c'est son instrument qui veut ça, quoi. Donc, je vais lui dire, continue comme ça, ne t'endors pas.
Et l'harmoniciste, Stéphane Bertolino?
Je vais lui dire, qu'est-ce que tu fais bien à manger, Stéphane?
Ah.
Parce que c'est lui qui nous a nourris pendant le CD,
et
je pense que ça s'entend. Mais ça s'entend surtout au niveau de l'armo, quoi. C'est-à-dire que, voilà.
Bon.
C'est quelqu'un qui cuisine tellement bien et qui joue tellement bien que c'est toujours un bonheur de jouer avec lui. Voilà, bon, c'est que des compliments.
Oui,
après,
oui,
les petits pics en 27 ans, bien sûr qu'on s'en met de temps en temps, mais oh, la radio, je trouve pas trop l'intérêt.
Alors, cet album Awek a été enregistré au studio du Four, au studio du Moulin. Non, studio du Moulin. C'est ça? Parce que Amaury Fèvre, que j'avais interviewé il y a quelques semaines, lui, il avait enregistré au studio du Four, par chez lui. Voilà, on est toujours au Four au Moulin quand on est musicien. Cet album, vous allez en faire quoi? Vous allez pouvoir le vendre, ça y est, à la fin des concerts, c'est parti pour?
Bah, disons que déjà, l'album, il est en distribution. Bon, voilà. Mais qui va acheter un disque en magasin aujourd'hui? Bon, il est quand même en vente en magasin. Bon, je sais pas lesquels vraiment. Il est dans surtout. Il est sur les plateformes classiques de téléchargement, etc. Et puis bon, après même en streaming, hein, c'est possible. On est un petit peu partout, quoi. Voilà. Mais après c'est. On n'a pas dit notre dernier mot là. Là, on est sur un autre projet énorme. On avait fait plusieurs concerts avec un orchestre, avec deux orchestres symphoniques différents.
Oui, tu nous en avais parlé, je me souviens.
Voilà, et en fait, on est sur le en décembre, on devrait faire un enregistrement d'un compositeur qui s'appelle Thierry Maillard, qui est un pianiste de jazz et de musique contemporaine, et qui donc a écrit une œuvre qui s'appelle Symphonie à blues, et donc pour orchestre symphonique et groupe de blues, et donc le groupe de blues, ça va être Awek, donc avec l'orchestre symphonique de Victor Hugo de Franche-Comté.
D'accord.
Sous la direction de Jean-François Verdier. Et ça, c'est notre prochain projet.
Ouais.
Et donc, ça va être entre le blues et classique et la musique contemporaine, on va dire. Donc, ça plaira pas à tout le monde, mais pour nous, ça va être une super expérience. Voilà. On commence déjà à travailler dessus sérieusement.
Ce qu'il faut vous souhaiter, effectivement, pour l'avenir à court, moyen et long terme, c'est de concrétiser, bien sûr, ce projet, de continuer à faire tout plein de concerts, à commencer par ce soir, on l'espère. On croise encore les doigts pour ce concert à Toulouse que Awek va donner. J'ai envie de te demander, en guise de dernière question, Bernard, qui souhaites-tu remercier particulièrement pour cette partie difficile de ta carrière, on va dire, les derniers 18 mois passés?
Ma femme, de m'avoir supporté déjà. Non, et puis les gars d'Awek, parce qu'on n'a pas lâché l'histoire. Hein. Je pense qu'on est quand même, on est resté en contact, même si on s'est pas vu des fois pendant plusieurs mois.
Ouais.
On a toujours continué à communiquer, on s'appelait au moins une fois par semaine. Non, on a maintenu le cap dans la tourmente. Ça veut dire que comme ça va aller beaucoup de mieux en mieux là, je pense qu'on va déchirer.
Bon, eh ben c'est tout ce que je peux vous souhaiter en tout cas à tous les quatre. L'album s'appelle Awek avec Bernard Selam, Stéphane Bertolino, Joël Ferron, Olivier Trébel, et puis deux invités, on les a cités tout à l'heure, Pascal Renando et Fred Crevelet, respectivement aux percussions et à la guitare. Cet album qui contient 11 titres, dont on va en écouter un nouveau tout de suite. Bernard, merci encore pour être intervenu dans ce 1108e Sweet Home Chicago. Je te souhaite le meilleur, ainsi qu'à tout ton équipe.
Moi aussi, et puis bon, je crois que vous êtes bien parti après 1108 émissions. Hein. Continuez, Marc.
Pour la 1200e, parce que bon, la 2000e, j'y crois pas trop. Tiens, il y a une intervention à nouveau sur Facebook. Olivier Raymond qui met « Awek, c'est la vie ». Ça, c'est cool, ça.
Merci Olivier, et continuez bien aussi les copains, voilà, parce que c'est, il y a une très belle scène française, c'est super.
Bernard, merci beaucoup, à très bientôt.
Allez, embrasse tout le monde.
Au revoir. Ciao. Keep me worrying, bother all the time.
moments in my life. Baby.